Salut, c'est Lilou. Vous écoutez bien l'émission 10 minutes avec, et aujourd'hui, un invité est venu au studio de la radio pour nous parler de la Fédération Mauvais Cancre. Notre invité du jour est Corentin Dugas, le créateur et le président actuel de cette fédération. La Fédération Mauvais Cancre a été créée en 2019 sur les réseaux sociaux. Elle est rapidement devenue une association en 2021 grâce à ses premiers adhérents. Elle est aujourd'hui sous forme de plusieurs associations dans différents départements un peu partout en France. Leur principal objectif ? Lutter contre les inégalités dans le champ des troubles du neurodéveloppement, comprenant les troubles 10, dont les plus connus sont la dyslexie ou encore la dyscalculie, ainsi que le trouble du spectre autistique, mais aussi les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, plus communément appelé TDAH. Et pour finir, le trouble du développement intellectuel, des handicaps dits invisibles qui sont souvent source d'inégalités au sein de notre société. Notre invité du jour vient nous parler des combats qu'il mène avec sa fédération ainsi que de son histoire. Et n'ayez crainte, chers auditeurs. Si vous ne connaissez que vaguement certains de ces troubles, demain, Corentin sera de retour sur vos postes de radio pour vous en parler plus en détail. Bonjour Corentin, bienvenue.
Bonjour.
Alors, pour commencer, je te laisse présenter cette fédération, ainsi que les combats que vous menez et les actions que vous proposez.
Alors, c'est une fédération, comme tu l'as très justement dit, qui est présente dans plusieurs départements, se regroupant en association Mauvais Cancre. C'est une association qui est composée, une fédération pardon, qui est composée de parents, d'enfants porteurs de troubles, de personnes porteuses de troubles, de professionnels aussi. Et nos actions, elles visent en soi à lutter contre les inégalités, mais davantage, on touche la question des accès aux droits fondamentaux. Accès et respect du droit à l'éducation, accès et respect à la santé, aux loisirs, à la culture, à l'indépendance, à l'autonomie, au permis, à plein de droits fondamentaux qui sont souvent compliqués pour ces personnes-là.
Et quelles actions vous proposez concrètement sur le terrain ?
Alors, la fédération, elle a pour but donc d'être un rôle de plaidoyer pour lutter contre ces inégalités-là, pour aussi rejouer un rôle de plaidoyer au niveau national, de vouloir dire qu'il faut une meilleure prise en charge, une meilleure accès à l'égalité. La fédération, elle porte chaque année une enquête qui ont pour but de recenser les besoins et les difficultés et de porter justement, là par exemple cette année, c'est une enquête sur l'accès au permis et ont pour but de récolter les besoins et les difficultés des personnes. Et nous, après, on va le porter au public. On va les porter face au pouvoir public et politique en leur disant concrètement qu'est-ce qui manque, quels sont les aménagements qu'ils souhaitent mettre en place et quels sont les besoins et difficultés et souffrances exprimées dans cette enquête-là.
Très bien. Et pourquoi as-tu décidé de créer cette fédération ?
Alors au début, c'était donc Association Mauvais Cancre, présente sur les réseaux sociaux, avec l'objectif en fait de mettre en avant les difficultés à l'école des enfants porteurs de troubles 10. Donc ça a commencé, au tout début en fait, ça a commencé en 2017 par une pétition. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait faire autre chose, notamment une présence sur les réseaux sociaux, parce qu'on a l'impression, quand on est diagnostiqué d'un trouble, notamment à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a avancé, mais qu'on est tout seul à vivre ça, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 8% des Français qui sont concernés par les troubles 10. Donc ça peut paraître peu, mais finalement, si, c'est énorme. Et on n'est pas seul à vivre ça. C'était avec ce chiffre-là, de rompre l'isolement, mais aussi de montrer clairement qu'il y avait des grosses lacunes au niveau de l'éducation nationale. Bon, je devrais parler au... Je parle au passé, mais il y en a encore aujourd'hui, hein, malheureusement.
Et donc en préparant cette émission, j'ai pu lire que dès tes 12-13 ans, tu interpellais déjà les pouvoirs publics sur l'état de l'école inclusive, avec des pétitions par exemple. Dès ton jeune âge, tu étais déjà très engagé dans la lutte des inégalités. Comment as-tu trouvé la force d'élever la voix ?
Dans le parcours qu'on vit, on a envie en fait, de ne pas que les suivants vivent ce qu'on a vécu, de ne pas voir ses parents souffrir à cause de ça, de ne pas savoir souffrir à cause de ça. Et surtout, je crois qu'il faut se battre pour rendre visible l'invisible et se battre pour... Quand on peut améliorer les choses, et on doit le faire, on doit foncer.
Et donc, tu es toi aussi porteur du trouble du neurodéveloppement, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Mais cela ne t'a pas empêché d'obtenir ton bac, tu réalises même des études actuellement. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner pour des personnes porteuses de TND qui font elles aussi des études ?
Malheureusement, encore aujourd'hui, il faut quand même se battre pour avoir les aménagements, pour les faire valoir, pour montrer qu'on est là et qu'on a le droit d'être là et qu'on a le droit d'être aidé. Il y a beaucoup de personnes porteuses de troubles justement qui n'ont pas accès à ces études-là pour plein de raisons, pour des stéréotypes, en pensant parce qu'on est 10, on ne peut pas faire d'études supérieures autistes. Ça, on l'entend encore très souvent aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes ou de jeunes hommes qu'on accompagne qui entendent ça et qui sont partis dans une voie en fait qui ne leur plaît pas justement parce qu'on les a orientés mal en pensant qu'ils ne pouvaient pas réussir. Le conseil que je donnerais, c'est que malheureusement, il faut se battre pour avoir ses droits, pour avoir des aménagements. C'est de ne jamais laisser tomber et de se rappeler qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver.
Et donc, ces associations qui sont partout en France, les actions que vous proposez parfois aussi, c'est accompagner les parents pour faire des dossiers MDPH. Et je voulais savoir comment vous accompagnez des parents qui sont souvent perdus face aux troubles et aux difficultés scolaires de leur enfant. Selon toi, que devrait vraiment instaurer comme aide le gouvernement pour soutenir et aider ces familles?
Déjà, on doit améliorer l'accès au diagnostic qui est souvent très compliqué, qui souvent a des années d'errance. Alors effectivement, il existe des choses, notamment les plateformes de coordination et d'orientation qui ont pour objectif d'orienter les familles vers la bonne prise en charge et vers le diagnostic, sauf qu'elles ne sont pas présentes dans tous les départements, qu'elles ne sont pas connues, qu'elles ne sont pas toujours... Les délais d'attente sont très longs, donc il faut favoriser en fait l'accès au diagnostic et après la prise en charge en faisant en sorte qu'une famille n'a pas à faire 50 km tout, ou même 100 parfois toutes les semaines pour aller voir une ergothérapeute, pour aller voir une orthophoniste parce qu'on n'en a pas dans son département. Ça passe par là aussi. Ça passe par faciliter aussi l'accès aux compensations du handicap, c'est-à-dire vraiment on demande souvent des aménagements matériels, humains ou financiers à la MDPH, maison départementale des personnes handicapées. On doit faciliter ça, on doit faciliter cette reconnaissance. Après, c'est l'accès à l'éducation qui est souvent compromis. Selon le trouble, c'est plus ou moins compliqué parce qu'il y a un manque de moyens concrets concernant l'inclusion, donc la formation des enseignants, les moyens qu'on peut avoir pour accompagner au mieux les AESH, donc accompagnement d'élèves en situation de handicap qui manque, ou certains les ont mutualisés, c'est-à-dire que certaines personnes vont les avoir seulement 2 heures par semaine, 6 heures, ça, c'est pas assez. On doit les avoir tout le temps quand on a besoin d'une AESH. Ça passe aussi par. Faire connaître toutes les aides qui existent, qu'on arrête aussi d'avoir 2 ans d'attente pour un dossier MDPH, qu'on les refuse des aides aux parents juste pour avoir... Moi, j'ai une famille, on a refusé son fils qui est dyspraxique, on a refusé un ordinateur. Donc, alors que pourtant, cet ordinateur l'aiderait grandement. On l'a refusé aussi d'avoir des tiers-temps, des choses comme ça, alors que ça l'aidait grandement. Donc, on commence par là. Qu'on accède justement ces aides-là qui sont cruciales pour que l'enfant, la personne puisse réussir et surtout s'épanouir. Après, il y a plein d'autres choses hein, pour l'accès au travail. Par exemple, pour les personnes qui ont notamment le trouble du développement intellectuel ou quand on a un trouble du spectre autistique ou l'autonomie parfois la plus compliquée à obtenir, pouvoir être en mesure de s'habiller seul, de manger seul, de communiquer, il y a encore un manque concret de solutions concrètes pour ça. Manque de structure, manque d'accompagnement, manque d'informations.
Et donc, quels sont les projets futurs de cette fédération?
Donc, la fédération lancera chaque année une enquête. Par exemple, nous travaillons sur la mise en place pour l'année prochaine d'une consultation nationale sur l'école inclusive, donc par là l'inclusion des enfants, des élèves porteurs de troubles du neurodéveloppement, avec plusieurs organisations, dont la Fédération Dyspraxique Mais Fantastique. D'autres sont à venir aussi, nous travaillons actuellement sur celle-ci. On va aussi travailler sur une brochure sur les troubles du neurodéveloppement qui aura pour objectif en fait d'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est, d'expliquer comment on est diagnostiqué, vers quel professionnel on doit se tourner, comment on fait pour la prise en charge, quelles sont les prises en charge par l'assurance maladie. Et aussi expliquer concrètement comment on fait pour accéder à l'école, comment on fait pour avoir une compensation au travail. Expliquer tout de A à Z pour arrêter d'être le flou pour les familles et les personnes.
Et quels sont les soutiens dans le Gard pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui?
Alors on est une association donc, qui est présente aussi dans le Gard, Mauvais Cancre Gard, qui organise donc, comme toutes les associations des cafés, Café 10, Café Autisme, encore Café TDAH, qui est aussi là pour organiser des temps de sensibilisation sur les troubles, mais aussi sur les problématiques. Très important parce qu'on est là aussi pour dire quelles sont les inégalités et difficultés que rencontrent les personnes porteuses de troubles. On propose donc, comme tu l'as dit, de l'accompagnement pour les dossiers MDPH, ça peut être aussi pour la défense des droits, ça peut être aussi notamment au niveau de l'école. On est très souvent à cheval avec, en discussion avec les rectorats, avec les proviseurs pour faire respecter les aménagements, pour leur faire comprendre comment on peut mettre en place des choses pour aider un élève. Et on organise aussi des temps de répit, de jeux et de sports adaptés.
Super. Eh bien, ces 10 minutes autour de la Fédération Mauvais Cancre touchent à leur fin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le podcast de l'émission disponible sur notre site radio radioalenceplus.fr dans la rubrique Rencontres. Vous pourrez retrouver le lien pour réaliser l'enquête de l'accès au permis pour les personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement ainsi que sur le site de l'association. Et si tu veux bien, Corentin, on se retrouve demain pour un nouvel épisode pour parler plus en détail des troubles du neurodéveloppement et des inégalités qu'ils peuvent engendrer. Merci beaucoup, Corentin. À demain.
Merci de m'avoir reçu.